bonjour à toutes et à tous. Pour ce début d'année 2026, une nouvelle émission d'Au fil des bobines, l'émission préparée par Cinéphile. Et nous allons vous parler de la programmation du mois de janvier avec une très belle programmation. Aujourd'hui, à l'animation, c'est Godefroy avec l'aide technique de Thomas. Bonjour Thomas. Et nous avons le plaisir d'accueillir deux administratrices et un administrateur de Cinéphile. Bonjour Valérie.
Bonjour à tous, bonne année.
Bonjour Martine.
Bonjour, bonjour.
Et bonjour Hervé.
Bonjour.
Hervé, notre cher président. Alors, n'oublions pas que cette programmation de janvier avait commencé déjà fin décembre avec un film d'Akira Kurosawa, un film pas très connu de ce grand artiste japonais qui s'appelle Entre le ciel et l'enfer et qui raconte l'histoire compliquée d'un enlèvement d'un jeune garçon qui est enlevé, qui est kidnappé en pensant que c'est le fils d'un PDG et en fait pas du tout. Et autour de ce film tourné presque comme un peu un thriller, Kurosawa va dessiner des aspects assez peu connus de la société japonaise et notamment des inégalités au sein de la société japonaise. C'est un film en noir et blanc avec son acteur fétiche Toshiro Mifune, que tout le monde connaît bien et a apprécié dans de nombreux films de Kurosawa. Donc n'oubliez pas d'y aller. C'est encore en programmation jusqu'au 6 janvier. Et puis après, nous allons attaquer notre nouvelle programmation, alors avec un film qui décoiffe, qui s'appelle Kika. Nous allons prendre juste le temps d'en extendre une petite extrait.
Vous travaillez au Black ?
Non.
Comment vous payez votre loyer ?
Ça dépend. Je me débrouille.
Vous pouvez me dire, je suis pas flic.
Je vends mes culottes sales. Je dis que je suis artiste et que c'est pour financer une expo et du coup, les mecs se prennent pour mes mécènes.
Ah, ok. Et vous payez votre loyer grâce au...
Ouais, je vends mes culottes 100 euros.
Vous vendez une culotte 100 euros ?
Ouais.
Hervé,
oui.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce film ? On l'entend, qui a quand même une tonalité assez étonnante et décapante.
Oui, absolument. Là, on est dans un moment de bascule dans le film, puisqu'il y a un peu deux parties dans ce film. Il y a une partie qui commence un peu comme une comédie romantique, et puis la suite est beaucoup moins romantique, beaucoup plus âpre. Mais tout à fait passionnante. Bon, ce film Kika, d'abord, c'est la continuation d'une histoire pour cinéphiles avec Alex Poukine, puisqu'on l'a programmé en 2025 avec un documentaire Sauf qui peut, qui était un documentaire sur le travail des soignants, avec des acteurs, en interaction avec des acteurs. Elle en est à ce... Je crois qu'elle a fait deux documentaires précédemment. Et là, c'est son premier long-métrage de fiction. Mais elle reste dans la même veine, en ce sens que le personnage principal de Kika est une assistante sociale dont la vie bascule. Elle se retrouve elle-même dans une situation assez critique financièrement, avec une fille, et puis elle est enceinte. Son compagnon vient de décéder et à ce moment-là, elle rencontre, vous avez entendu cette rencontre avec une personne qu'elle reçoit en tant qu'assistante sociale. Et ça lui ouvre un univers de possibles et elle va devenir une dominatrice de BDSM. Pour gagner sa vie, voilà. Donc c'est un film qui est assez, dont le thème est assez surprenant, très fort, très dérangeant. Il a de très intéressant que c'est un film qui ne juge pas du tout, qui n'est pas du tout complaisant sur l'aspect érotique des scènes. Là, on est quand même très très loin de l'érotisme. Et, Et en fait, le fond de l'histoire, et vous le verrez en voyant le film, c'est que entre être assistante sociale ou être dominatrice, finalement, les frontières sont assez ténues, puisqu'elle se rend compte qu'elle soigne aussi et qu'elle aide les hommes qu'elle rencontre dans son activité. Voilà.
Alors, Alex Poukine, quand elle a présenté son film, dit qu'elle avait beaucoup travaillé sur le casting et qu'elle avait mis beaucoup de temps à découvrir Manon Clavel, mais que manifestement, cette actrice portait aussi énormément le film. Est-ce que c'est l'impression que tu as eue aussi?
Moi, j'ai été subjugué par cette actrice. Je la trouve absolument géniale. Elle ne ressemble pas à ce qu'on connaît, enfin, pour moi, à ce que je connaissais des actrices. C'est vraiment une nouvelle venue. Enfin, elle a déjà un parcours, j'imagine, mais pour moi, c'était tout nouveau, la rencontre avec cette actrice. Et oui, je pense qu'elle est prodigieuse et à mon avis, elle va faire une carrière au cinéma certainement assez extraordinaire.
Ouais, c'est une belle découverte dans cette première fiction. Oui. Et puis, c'est vrai que tu as rappelé qu'Alex Poukine, on la connaissait à travers notamment son documentaire « Sauf qui peut » qu'on avait programmé. C'est quelqu'un qu'on avait senti avec une caméra très, très attentif aux personnes, à l'humanisme, à la juste distance. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui transparaît dans sa manière de filmer les êtres dans Kika?
Oui, alors ça a beau être une fiction, on est au naturel en fait. Hein. Ça pourrait quasiment être un documentaire dans la manière qu'elle a de filmer ses personnages. C'est très vrai, c'est très simple, très, très naturel. Quoi.
Valérie
Alex Poukine, c'est une personne qui a passé un concours pour entrer dans une école documentaire, celle de l'USAS. Et donc, elle a appris la façon de filmer les documentaires. Et je pense que ça vient aussi de là,
sûr,
cette expérience. Et elle a aussi... son premier documentaire, c'était « Sans frapper ». Mmh. C'était sur la thématique de la banalisation du viol. Donc voilà, avec toutes ces expériences-là, ouais, je pense qu'effectivement...
Et dans son parcours, en fait, moi je l'ai entendu parler de son film, dans son parcours, elle-même a été pas loin de la précarité, donc elle en parle évidemment dans ce film, et elle a un de ses meilleurs amis qui a bossé un peu dans le BDSM, donc voilà, elle a mixé un peu les expériences, elle en a tiré cette fiction.
Avec aussi des rencontres avec des vrais personnages, à la fois qui sont des personnes travailleuses du sexe et aussi des acteurs. Et ça fait vraiment exister, je crois, les rôles tenus dans quelque chose de très naturel.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est tourné avec des prostituées. Ouais. Voilà, des vraies prostituées et des acteurs et des actrices. Et d'ailleurs, on ne sait pas très bien qui est qui. Voilà. Et oui, c'est tout à fait naturel. C'est tourné dans un hôtel, on ne dit pas un hôtel de passe en Belgique, je ne me souviens plus du terme. Et voilà, on est vraiment dans la réalité.
Ouais. En tout cas, un premier film qui a eu un bel accueil critique, hein, et qu'on est absolument ravis de pouvoir vous proposer, nous, à Cinéphiles. Donc, Kika, sa première, ce sera le lundi 5 janvier, puisque vous savez que tous les lundis, maintenant, entre 20h30 et 21h, en général, 20h30 ou 20h45, c'est la première des films de la semaine que nous accompagnons avec la présence de deux ou trois membres du CA. Donc Kika, première séance le 5, et puis ensuite programmation dans la semaine cinéphilique, hein, c'est-à-dire du mercredi au mardi, entre le 7 et le 13. Un film étonnant et qui va nous commencer l'année sur les chapeaux de roue.
Sur les chapeaux de roue qui laissera des souvenirs. Ouais. C'est un film très fort.
Et puis nous allons passer complètement à autre chose pour notre deuxième programmation, là avec une soirée unique du lundi 12 janvier. Alors, une thématique très cinéphilique avec la projection de deux films. Donc Martine, tu peux nous en parler un petit peu de ce double accordage autour de cette soirée du 12?
Alors oui, c'est vraiment, t'as raison de le dire, c'est vraiment une histoire de double en fait, parce que donc le film, les deux films que nous proposons sont le film mythique de Chris Marker, La Jetée, qui a été réalisé en 62, qui est un photoroman, comme il disait, c'est-à-dire qu'il a fabriqué son film à partir d'un bon titre de photo où il met une voix off et il raconte une pure fiction, puisque ça se passe à l'orée de la Troisième Guerre mondiale. Et là, c'est un travail sur les souvenirs qu'on va rechercher, enfin des expériences d'un homme qui était condamné et qui va revisiter un souvenir d'enfance. Donc il va aller dans le passé, dans le futur, etc. Et bon, je ne vais pas raconter le film, mais le lien avec donc, le deuxième film qu'on propose de Dominique Cabrera, c'est justement le titre « Le cinquième plan de la jetée », c'est-à-dire que le cinquième plan du film de Marker est une photographie où, qui se passe à Orly, où on voit deux parents et un enfant qui a les oreilles décollées. Et le cousin de Cabrera, qui a vu la jetée lors d'une rétrospective à la Cinémathèque, se reconnaît. C'est-à-dire il reconnaît ses oreilles, il reconnaît ses parents de dos. Et à partir de là, elle se dit qu'elle va faire un film. Donc, je ne vous cache pas qu'elle a eu un peu du mal à avoir des subventions, mais finalement elle les a eues parce que c'est un film qui se met complètement en miroir avec la jetée. Elle va installer un espèce de théâtre de la mémoire dans un studio à Montreuil avec deux écrans. Elle va convoquer des connaissances de Chris Marker et des membres de sa famille parce qu'en fait... À Orly, en 62, c'était les accords d'Évian. Et Cabrera raconte que, justement, son cousin et les parents allaient à Orly pour voir les pieds noirs arriver, puisque c'était comme un grand portique, voir s'ils avaient des connaissances. Et donc, elle fait un retour, en fait, parce que Marker, il a fait en même temps que la jetée un film qui s'appelle Joli Mai sur la question de l'indépendance algérienne. Et à chaque fois dans son film, donc elle va questionner les membres de sa famille et les proches de Marker à partir d'images de la jetée, mais aussi d'autres images. Et là, c'est les souvenirs qui sont convoqués. Et en fait... sa démarche, finalement, sera presque la même que celle de Chris Marker, qui, toute sa vie, a fait une recherche entre le rapport des images et des commentaires ou interprétations ou fictions qu'on peut en faire. Et donc, tous les discours vont se tisser entre eux et au final, tout devient signe et parfois délire. Mais bon, un tout petit peu. Hein, faut pas. Et donc, voilà, c'est un film enquête, on va dire, peut-être à la Varda, mais en moins espiègle. J'espère qu'elle ne m'entend pas. Mais d'une liberté totale, quoi. Et donc, voilà, c'est une histoire de mémoire.
Et du coup, ça
on
n'est
jamais sûr de ses souvenirs, finalement.
Et du coup, ça nous a, nous, beaucoup tenté de pouvoir présenter, en fait, les deux facettes cinématographiques qui sont en permanence liées avec, à la fois, le film de Chris Marker et le film de Cabrera, qui, du coup, sont projetés aussi, l'un après l'autre. Et je crois que nous aurons la chance aussi de pouvoir accueillir la réalisatrice Cabrera. Tu peux me le confirmer, Martine?
Bah, je ne sais pas.
Je crois qu'on peut le confirmer.
C'est toujours intéressant, et ça c'est aussi un des souhaits de cinéphiles, surtout pour des films qui n'auront peut-être pas une approche immédiate facile, de pouvoir aussi faire venir des personnes, alors quand on peut, la réalisatrice ou le réalisateur, ou des membres de l'équipe du film, qui en fait aussi nous éclaire, nous, en tant que spectateurs, sur la démarche, sur les choix esthétiques, sur le sens global, l'articulation avec d'autres expériences cinématographiques. Et c'est tout notre souhait d'organiser ces séances spéciales. Là, ce sera donc le lundi 12, avec le regard aussi de quelqu'un qui a porté, conçu, écrit ce film, surtout... dans une histoire où il y a autant de résonance avec un film fétiche, comme tu le rappelais, qui est quand même La Jetée de Chris Marker.
Alors ce sera une soirée quand même longue, il faut prévoir, puisque La Jetée, ça dure 38 minutes. Le film de Cabrera,
1h45.
Et le débat après. Mais bon, ce sera une vraie leçon de cinéma, on peut dire. Ouais.
Ouais, c'est pour les amateurs de cinéma, puis ceux qui ont envie un petit peu de découvrir le travail cinématographique aussi. C'est tout l'intérêt de ces films qui peuvent paraître difficiles d'abord, mais qui en fait vont creuser dans l'intention et dans le sujet même du cinéma. On va ensuite enchaîner avec un autre film que nous sommes contents de présenter parce que c'est un premier long métrage. Il s'appelle « Des preuves d'amour ». C'est un film d'Alice Douard sur un sujet, tout à fait contemporain. Valérie, tu pourrais nous en situer un petit peu quelques éléments ?
Oui, alors déjà, je vais situer l'endroit où j'ai eu la chance de voir ce film. C'était donc au Festival de Cannes, dans la sélection... la semaine de la critique. Cette année-là, il y a eu beaucoup de films. Kika était sélectionné pour la semaine de la critique. Donc un film vu dans la semaine de la critique d'Alice Douard, comme tu l'as dit. C'est un premier film. Donc c'est un film qui a concouru aussi pour la Caméra d'Or. La Caméra d'Or, c'est une sélection pour primer des premiers films. Alors, il se trouve que cette année, elle ne l'a pas eue, mais en tout cas, elle faisait partie de la sélection. Et il était sélectionné aussi dans le cadre de la Queer Palm. Alors, la Queer Palm, c'est aussi une sélection du Festival de Cannes qui récompense les films qui traitent de sujets LGBT. Voilà, donc voilà un petit peu le décor dans lequel j'ai pu voir ce film. Alors, moi, j'ai été vraiment très, très charmée par ce film. Donc il s'agit d'une histoire d'un couple de femmes dont l'une est enceinte. Donc ce couple attend un enfant. Et l'autre, c'est le point de vue de celle qui n'est pas enceinte, en fait, le film. Et en fait, tout au long du film, elle va essayer de trouver sa place. Sa place aux yeux de sa famille, sa place aux yeux de ses amis, aux yeux de la loi aussi. Parce que en fait, la première image du film, c'est l'adoption par l'Assemblée nationale en 2013 du mariage pour tous, donc qui se situe à cette époque-là. Donc la loi est votée. Néanmoins, toutes les lois, toute l'organisation qui doit déboucher n'est encore pas écrite. Et en fait, cette personne se trouve au milieu de tout ce qui est à construire, en fait. Alors, donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est filmé aussi d'une manière très délicate. Il y a beaucoup d'humour aussi dans cette histoire-là, même si le sujet est quand même assez profond. Et c'est très, très bien interprété par trois actrices. Alors, on va parler de Monia Chokri. Donc, ça, tout le monde... Enfin, Monia Chokri, tout le monde la connaît. Elle a beaucoup joué dans les films de Xavier Dolan. Dernièrement, on l'a vu au cinéma dans Simple comme Sylvain. Et puis, tout récemment, là, elle a joué dans le film Les enfants vont bien, aux côtés de Camille Cotin. Donc, Monia Chokri, c'est celle qui joue le rôle de la personne enceinte. L'autre, donc celle dont le film est le point de vue, en fait, c'est Ella Rumpf. Alors, Ella Rumpf, on a pu la voir dans Le théorème de Marguerite. C'était une excellente actrice, qui a aussi une personnalité propre, mais qui est vraiment un point de vue très, très intéressant dans le film. Et puis, on a aussi Noémie Lvovsky, que tout le monde connaît, qui joue le rôle de la mère. Voilà, donc un film très, très contemporain, comme tu l'as dit, qui traite d'un sujet actuel et qui est mené vraiment de manière très, très délicate et... intéressant. Alors juste pour information, ce premier long métrage, il fait suite à un premier court métrage de la même Alice Douard qui s'appelait L'attente et dans lequel, alors c'était un petit peu la même histoire, il y avait deux femmes qui se trouvaient à l'hôpital, un couple de femmes aussi, et dont l'une accouchait, et donc d'où le titre L'attente, et il y avait comme actrice Clotilde M. Voilà. Et puis juste aussi pour info, Alice Douard, elle a été élève de la FEMIS. Donc elle a aussi bien travaillé tout ce qui est scénario, etc.
On voit une programmation très, très éclectique, du coup très diverse, variée. Et tu ouvres dans ton propos à quelque chose, puisque tu parlais des cours, puisque nous allons recommencer cette année, et ce sera le lundi 19, la soirée cinéphile des courts-métrages, avec trois courts-métrages qui ont été sélectionnés par des membres de Cinéphile. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots en plus ?
On a pris le vidéoprojecteur de Cinéphile qui sert pour les plénaires et on a fait une projection intramuros. Et donc on avait une présélection faite par Colin de 7 courts-métrages et 8, pardon. Et on en a, après discussion, retenu 3. Donc, le fil conducteur, en fait, c'est 3 courts-métrages réalisés au début de leur carrière par des cinéastes qu'on a programmés cette année. Et donc, et l'autre fil conducteur qui s'est imposé en fait quand on a fait notre choix, c'est l'histoire de la vie, la jeunesse, l'adolescence, et l'âge adulte et la vieillesse de femme. Voilà, ces 3 courts-métrages évoquent un peu la danse de la vie. Et donc,
on va peut-être pas divulguer trop les courts-métrages, mais peut-être donner les noms des réalisatrices ainsi que les longs-métrages, du coup, pour rappeler aux auditeurs les longs-métrages que nous avons passés. Alors, dans l'ordre chronologique, puisqu'il y avait une chronologie qui s'est ensuite dévoilée, donc on a en premier donc Éclipse solaire, qui est un court-métrage iranien. De Ra Amirza Tazli et Alizega Ghasseni, excusez-moi pour la prononciation. Donc, il date de 2021, ce court-métrage, et en fait, donc, ces deux réalisatrices se sont distinguées avec ce premier court-métrage, et ça a donné lieu au film « Au pays de nos frères », qui a eu un très très grand succès.
Non, je voulais juste dire que c'était un réalisateur et une réalisatrice.
Oui, d'accord. Alors, dans la suite donc, chronologique, on a un film d'Alex Poukin, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, qui s'appelle Palma, et donc qui traite, tu peux peut-être en parler, qui est assez long pour un court-métrage, puisqu'il
fait 40 minutes.
Voilà, 40 minutes, on est à la limite.
Il se passe à Majorque, c'est une fille et sa mère. Et c'est très drôle, c'est assez drôle. Voilà.
Et c'est aussi, on fait aussi référence à l'expérience du documentaire. On voit bien l'expérience du documentaire au travers de ce court-métrage. Ouais. Et donc, évidemment, on a passé Sauf qui peut, on l'a dit tout à l'heure. Et le dernier, donc, c'est La lumière du phare d'Hélène Milano. Alors celui-là, il est un peu plus ancien, il date de 2013. Et il est interprété dans le rôle principal par Monique Chaumette, qui était la compagne de Philippe Noiret. Donc ça traite de la vieillesse. Que faire de nos aïeux, en fait, on s'aperçoit que dans les pays très industrialisés, c'est pas forcément la panacée, comme ça peut l'être en Afrique, par exemple. Donc c'est intéressant, cette question-là. Et là, Hélène Milano, en 2024, elle a réalisé Château Rouge.
Elle est venue en parler.
Voilà. Voilà. Ce documentaire sur un collège de la Goutte d'Or. Donc un programme très alléchant de courts-métrages.
Et c'est vrai que ça avait été... c'est déjà la deuxième ou troisième année où on programme des courts-métrages de films qui ont été projetés dans l'année. Et c'est une autre manière d'éclairer le travail des réalisatrices ou réalisateurs que d'aller rechercher aussi leurs souvent premières œuvres.
Oui, en fait, c'est la deuxième fois parce qu'on n'avait pas pu le faire en début 2025. Donc ça remonte à début 2024, la première expérience qu'on avait eue, qui était plutôt chouette, donc on est content de la reconduire. Sur cette programmation de janvier et qui continuera en février, on a une programmation quasiment exclusivement de femmes réalisatrices, que ce soit sur les longs et sur les courts-métrages. Bon, c'est assez exceptionnel. Et on est content quand même de le souligner parce que globalement, dans la programmation française, elles ne sont pas nécessairement à l'honneur. Il se trouve que là, on est vraiment avec quasi exclusivement, à part ce réalisateur iranien.
Et avec une réalisatrice. Donc.
Avec une réalisatrice, voilà. On est avec des réalisatrices femmes. Et quatre longs métrages, le premier long métrage. Donc voilà, on est vraiment...
Et pas que français.
Bien sûr.
Et ça, c'est un peu aussi, quelque part, l'ADN de cinéphile, d'aller promouvoir des longs métrages, des premières œuvres. C'est aussi quelque chose que l'on défend à un cinéphile. Ouais. De même que de ne pas oublier les courts métrages, qui sont souvent une première entrée dans le monde du cinéma pour de nombreux réalisateurs ou réalisatrices. Donc, cette soirée court métrage au Lobby, ne pas oublier que c'est le lundi 19 janvier 2026 à 20h30, les horaires habituels du lundi. Et puis, nous allons changer de registre pour le dernier film de la programmation de janvier qui débutera tout début février puisque ce sera le 2 avec L'Englouti. Mais tout d'abord, un petit extrait de la bande-annonce.
Eh oh !
Mademoiselle Lazare. Alors, il s'est perdu, le muletier.
Vous allez écrire la première lettre de l'alphabet. A. Savez-vous quel jour nous sommes ? Nous avons basculé dans un nouveau siècle. Nous sommes en 1900. Et si nous nous imaginions dans 100 ans encore ?
Je serai mariée dans la vallée.
N'importe quoi, dans 100 ans tu seras morte.
Tu sais où nous sommes ?
Je n'ignore pas tout, mademoiselle.
Voilà, une petite ambiance sonore de L'Englouti, un film de Louis Aymon. Alors, qui se passe à la toute fin du 19e siècle, dans les dernières années du 19e siècle, dans les Hautes-Alpes. Je crois que Valérie, c'est un film que tu as aimé et qui t'a marqué. Tu voulais nous en dire quelques mots.
Alors, ce film, encore un film vu à Cannes. Alors, cette fois dans la sélection La Quinzaine des cinéastes. Donc, un film qui nous plonge effectivement dans les Alpes de Haute-Provence, en plein hiver, dans un village isolé, en 1999, donc à la veille d'un changement de siècle. Et l'héroïne, c'est une institutrice, donc une hussarde de la République, comme on les a appelés longtemps, qui arrive dans un village très isolée et qui doit assurer sa mission de civiliser une population qui est assez illettrée et en proie aux superstitions. Donc là, c'est quand même une mission assez compliquée. Et là, dans l'extrait, on est plongé dans les premiers instants du film. Donc, Louise Aymon, c'est la réalisatrice. C'est un premier film, là encore. Donc, elle nous plonge dans une ambiance hivernale et montagnarde, avec des images magnifiques, réalisées le plus souvent à la lumière de la bougie, en fait, qui donne au film un côté très très envoûtant et aussi poétique. Il faut aussi savoir que ce film a été scénarisé par co-scénarisé par Anaïs Tellen, qu'on avait déjà eu l'occasion de voir on ne l'a pas vu en tant qu'actrice, mais qui avait scénarisé L'Homme d'argile et que nous avions déjà programmé nous-mêmes, cinéphiles. Donc ce film-là, il est très très sensuel. On est au milieu du feu, de l'eau, de la glace, et on tourne autour de cette héroïne qui est interprétée par la rayonnante Galatea Bellugi qu'on peut voir actuellement dans La Condition. Ce film m'a vraiment touchée. Il a aussi, il y a une proximité quasi documentaire sur le décor, parce qu'il faut savoir qu'en fait, Louise Aymon, ses ancêtres étaient des habitants de la Haute-Provence, donc elle y allait pendant ses vacances, etc. Donc c'est vraiment son élément naturel. Et elle a eu aussi des ancêtres instituteurs du début du siècle. Donc elle a cette expérience, et on lui a raconté des histoires, et sa grand-mère elle-même tenait un journal, et elle était justement nommée dans ces Alpes de Haute-Provence, et elle s'est inspirée d'événements narrés par sa grand-mère pour les filmer dans ce premier film. Donc voilà, vraiment, c'était touchant, intéressant. Et ben, je vous le conseille. Ah oui, et dernière chose, il a obtenu le prix Jean Vigo 2025. Et il a reçu... donc moi, j'étais dans la salle... à Cannes, avec toute l'équipe, ils ont été applaudis pendant un quart d'heure. Donc, ça a été un très, très gros succès.
Un film qui a l'air aussi très en phase, comme tu disais, avec la montagne, l'environnement, très ancré dans le sol, dans le terroir, un peu comme tu évoquais L'Homme d'argile, hein, qui était aussi très ancré dans son terroir.
Oui, un travail sur les corps, sur la lumière avec les clairs-obscurs, etc. Et en fait, elle a travaillé aussi avec une chef opératrice, justement, qui manie la caméra à la lumière de la bougie. Enfin, en fait, il y a des capteurs qui permettent de ne pas utiliser les projecteurs.
La lumière artificielle.
Et donc, voilà, c'est vraiment très, très envoûtant et on est captivé, quoi. On entre directement dans le film, voilà.
Moi, je veux juste rajouter un petit quelque chose. On n'a pas eu le temps de mettre ça sur pied avant cette émission et avant l'apparition de notre travelling, mais on ne désespère pas d'avoir peut-être justement la chef opératrice ou la réalisatrice, qui sait, qui accompagnerait la sortie de ce film, mais pour l'instant, on n'est pas en mesure de le confirmer. Donc on enverra des newsletters, on informera.
Voilà, tous ceux qui se sont inscrits, y compris sur le site, pour recevoir la newsletter, auront donc toutes les informations.
Exactement.
Une très belle programmation variée pour débuter cette année 2026. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir défendu, programmé d'une part et défendu tous ces films. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons, chers auditeurs, le lundi, quand vous venez le lundi, puisqu'il y a toujours des membres de Cinéphiles avec qui échanger et discuter. Bon début d'année à tous, et cette année, comme l'année précédente, n'oubliez pas, allez au cinéma.